Critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, Avis Critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui proposent une histoire politique de l'art. Dans Primitivisme, une invention moderne publiée chez Gallimard, Philippe Dagen engage un examen critique inédit de ce terme apparu dans le dernier tiers du 19e siècle. Le ou les primitivismes qualifient d'abord des objets, des artefacts américains, africains ou océaniens, mais ils se définissent ou se définissent aussi à la faveur des sciences sociales qui se penchent sur la folie, l'enfance ou la préhistoire. L'approche postcoloniale se combine ici à une lecture critique de la modernité occidentale. On retrouve cette démarche critique dans l'essai d'Isabelle Alfonsi pour une esthétique de l'émancipation publié aux éditions B42. On passe là avec la galeriste à l'art contemporain dont l'histoire récente est relue pour voir comment un art queer est né de pratiques ancrées dans le militantisme de défense des droits des homosexuels, féministes et anticapitalistes. Et en studio pour débattre de ces deux ouvrages, Joseph Confavreux, bonsoir, de Mediapart.
Bonsoir Raphaël.
Et un habitué qui revient, Alyosha Wald-Lazewski. Bonsoir Alyosha.
Bonsoir Raphaël.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Philippe Dagen, Primitivisme, une invention moderne, publié chez Gallimard. Professeur d'histoire de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Philippe Dagen est aussi critique d'art au journal Le Monde. Il a consacré plusieurs ouvrages à Derain, Gauguin ou encore Picasso, entre autres, des artistes qu'on va retrouver dans l'essai qui nous occupe ce soir. Un livre qui s'inscrit dans la continuité d'un autre, paru il y a 20 ans chez Gallimard, Le peintre, le poète, le sauvage, les voies du primitivisme dans l'art français. Dagen y proposait une histoire non seulement artistique, mais aussi culturelle du courant primitiviste, analysée dans sa nostalgie d'une création vierge de tout académisme. Mais entre-temps, les études postcoloniales sont passées par là. Primitivisme, une invention moderne, se propose donc de réécrire l'histoire de ce mouvement qui est affaire de forme et de style, mais qui ne se résume pas à cela. Tout d'abord, il ne peut être compris, selon Dagen, si on n'étudie pas le processus d'invention moderne du primitif, à la fois comme produit de l'imaginaire raciste et expansionniste de la colonisation au XIXe siècle, et dans son application à la faveur du développement des sciences sociales, comme l'archéologie, l'anthropologie ou encore la psychanalyse, appliquée aux fous, aux enfants, à la préhistoire ou encore aux rustiques. C'est un terme qu'utilise Dagen, ce sont des populations européennes qui échappent encore au progrès au XIXe siècle. L'hypothèse testée dans ce livre, c'est que les primitivismes, on comprend mieux le pluriel, dont l'histoire se confond avec celle des avant-gardes, serait la manifestation d'une pensée critique de la modernité. C'est pour Picasso, Matisse, Braque ou bien sûr Gauguin, et plus tard Dada ou les surréalistes, la manifestation d'un refus intense de l'ordre moral bourgeois, pour la liberté des corps, pour la vie dans la nature, loin des villes et des usines, pour la singularité de l'individu, Alyosha Wald-Lazewski. C'est donc une définition paradoxale des primitivismes que nous propose Philippe Dagen, à la fois la construction d'un regard méprisant et surplombant sur des objets rapportés des colonies, mais aussi la possibilité d'une critique de la modernité.
Oui, vous avez très bien expliqué l'enjeu et la complexité, finalement le pluralisme du terme primitivisme, qui effectivement le primitif est une invention, une construction effectivement de la modernité occidentale qu'il considère sous 5 modes, le sauvage, le fou, l'enfant, le préhistorique et le rustique. Mais cette histoire commence avec l'idée que les arts primitifs sont évidemment placés sous l'autorité des arts occidentaux, qui tiennent pour primitifs donc des cultures et des sociétés par rapport à d'autres considérées donc comme plus développées et plus modernes. Et donc effectivement le point de départ c'est le colonialisme, c'est-à-dire que le colonialisme est à la fois la cause de l'accessibilité de ces objets en Occident et évidemment la cause de leur dépréciation systématique, pillage, vol, destruction, dénigrement. Donc les objets collectés depuis le XVIIIe siècle dans le cadre d'exploration pour être vus et conservés dans des musées publics ou des collections privées, l'Européen refusant évidemment de donner toute qualité esthétique et déplore cette grossièreté, cette obscénité de ces objets. Sauf que d'une part, sur le plan artistique, des avant-gardes, vous l'avez dit, en France et en Allemagne, fondateurs de mouvements au tournant du 19e, 20e, comme Die Brücke à Dresde, le fauvisme, le cubisme, Der Blaue Reiter à Munich, vont donc sortir ce qui était vu comme des curiosités exotiques dans des musées ethnographiques pour leur donner un statut très particulier, justement, d'œuvres d'art, inspiration, influence. Il y a tout un, évidemment, une dialectique, un jeu qui se met en place et qui est très bien analysé par Philippe d'Agen dans ce livre. Et d'autre part, les primitivismes sont vus à travers les disciplines qui se développent. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement la cartographie des arts d'un côté, mais il y a toutes les sciences humaines qui se développent à la fin du 19e, la psychiatrie des aliénés, la psychologie enfantine, l'archéologie préhistorique. Les études folkloriques aussi qui vont donner à cette notion de primitif le retour vers la nature, vers le rustique, vers les Alpes ou la Bretagne selon certains artistes. Donc la question c'est effectivement comment se forme, comment agit la fiction, l'imaginaire, l'utopie ou l'idéal du primitif qui renvoie à la fois à un état de perception et de pensée qui peut inspirer parfois par son mysticisme ou sa magie. Voilà, ouais, certains artistes.
Avec au centre, Joseph Confavreux, du travail de Philippe d'Agen, une certaine façon de faire émerger une méthode qui est la méthode comparatiste. On voit que le primitivisme se nourrit de comparaison entre les civilisations à travers les âges et donc aussi comparaison entre, par exemple, ceux qui sont appelés, désignés comme des sauvages et les fous, on l'a dit, les préhistoriques ou les rustiques.
Oui. Pour les enfants. D'ailleurs, d'une comparaison forcée. Hein, il dit bien que cette idée de étendre le domaine du primitif non seulement aux sauvages, mais aux fous, aux préhistoriques, se heurte précisément au 19e siècle, qui est à la fois ce moment de la colonisation et du mépris donc pour ces œuvres venues de mondes lointains, mais aussi le moment d'un renforcement des sciences sociales et notamment de l'art préhistorique. Là, ça bute, par exemple, sur cette comparaison entre le sauvage et l'art préhistorique, parce que il y a l'idée que donc ce qu'expriment en tout cas les primitifs, c'est un accès direct à l'esprit, la magie, mais en tout cas pas la représentation telle qu'elle est définie par les beaux-arts de l'époque. Or, quand on découvre certaines des cavernes, eh ben on voit bien qu'il y a un réalisme animalier qui rentre pas du tout dans l'idée de pouvoir comparer le monde de l'enfance, le monde de la préhistoire ou les mondes lointains. Donc, ce comparatisme-là, à la fois, il est mis en œuvre, mais il est mis en œuvre en forçant les choses. Et c'est là où, moi, je trouve que le travail de Philippe d'Agen, il faut bien dire, parce que c'est quand même un peu étonnant. Quand on prend le livre, moi, je me suis attendu, bon, voilà, un livre très sérieux, érudit, parfois pas très facile d'accès. Hein, il cite beaucoup d'auteurs complètement inconnus du 19e siècle. Et c'est là où lui, contre ce comparatisme forcé du 19e siècle, fait une mise en relation assez saisissante hein, de plein d'artistes pour montrer quelque chose qui dépasse pour moi largement l'histoire de l'art. C'est-à-dire que, vous avouez que au début, je me suis dit, bon, c'est un livre intéressant d'un grand spécialiste de la période des avant-gardes esthétiques et politiques du tournant du 19e 20e, et je me retrouve avec un livre qui, je trouve, résonne beaucoup aujourd'hui dans la manière dont il montre à la fois deux choses importantes, comment se construit une critique de la modernité très radicale, qui fait quand même des échos avec maintenant, et comment les œuvres ne peuvent pas, alors que souvent l'histoire de l'art parle en termes d'influence stylistique, et ben qu'en fait, si on pense l'histoire de l'art uniquement comme ça, on manque au fond les tournants politiques et anthropologiques qu'elle peut aussi contenir.
Oui, avec toute la subtilité que parvient, je trouve, assez bien à développer Philippe d'Agen sur cette critique de la modernité, c'est-à-dire ce regard surplombant qui est celui des artistes, hein, qui sont les artistes établis, hein, du tournant du début du 20e siècle, le tournant 19e, 20e siècle, vous les avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire soit du côté allemand, Die Brücke, ou le cheval bleu, et du côté français, les cubistes, les fauvistes, évidemment, pour ne citer qu'eux. Il y a ce regard surplombant, c'est-à-dire que ces œuvres d'art, ces artefacts qui sont d'abord vus comme grossiers, qui ne pouvaient pas être du domaine de l'art, mais plutôt du domaine du mysticisme, qui sont les objets qui sont rapportés d'Afrique, d'Océanie ou d'Amérique, vont peu à peu acquérir cette fonction d'art, mais avec ce regard surplombant. Et c'est cette subtilité que va explorer Philippe d'Agen dans ce livre, c'est-à-dire que la critique de la modernité va se saisir finalement d'un regard qui lui-même doit être soumis à la critique, à l'échelle de la
société. Oui, c'est ça, c'est à la fois cet échange, donc ce comparatisme au départ aussi de la diversité des œuvres qui viennent de continents différents, de cultures très différentes, et qui au fond vont avoir un rôle différent selon les angles, selon les approches. Par exemple, Marcel Mauss, qui publie un essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, lui par exemple ne retient que l'aspect, en même temps c'est sa fonction, hein, et puis c'est une science qui se développe, la morphologie sociale, les régimes alimentaires, la propriété. Finalement, il retient des œuvres et des créations que comme manifestation d'une vie collective en communauté. Donc ça prouve que ce sont des approches qui se construisent petit à petit. Même lorsque Picasso plus tard va poser avec des œuvres dans son atelier, ou Derain qui pose avec le nu debout d'une statuette en forme de chat, on voit très bien que ce sont à ce moment-là des contre-modèles, des contre-références qui viennent déplacer, soit sous forme de détachement, d'éloignement, de provocation, comme le japonisme ou le Moyen-Âge à d'autres périodes. Donc on voit comment le primitif ou le primitivisme, selon les angles, finalement est un assemblage assez hétéroclite de perspectives, d'approches, d'intérêts. Et donc il n'y a pas, voilà, d'un seul coup une sorte de place qui serait donnée à l'art africain en tant que tel. Mais il permet de réinventer, de recréer à sa façon, parce que la statuette africaine, la nature morte, c'est ce que dit Matisse, qui est à la fois influencé par exemple par ses œuvres, et en même temps, au moment où il fait ses propres œuvres, le nu bleu par exemple, n'utilise pas encore ces techniques africaines. Il y a par exemple simplement, si vous voulez, c'est le fond et la forme, c'est-à-dire est-ce qu'on utilise les références ou est-ce que c'est aussi le traitement des matériaux, le retour au bois, le retour à la gravure, une certaine sculpture qu'on redécouvre. Donc c'est dans des petits détails aussi, ça que s'explique très bien Philippe Dagen, c'est pour ça que c'est très précis comme texte, c'est qu'il analyse effectivement des moments, des étapes finalement d'une histoire très complexe, plurielle, où justement on voit que d'un seul coup, voilà, un matériau va transformer un peu le regard qu'on a sur l'art.
Joseph Confavreux.
Mais ce qui me semble intéressant, c'est de quand il montre que en fait les objets sont là depuis quasiment le début du 19e siècle, en tout cas les récits sont là depuis la fin du 18e siècle, les objets sont là dès le début du 19e siècle et sont considérés avec à la fois cette curiosité et cette condescendance durant quand même quasiment tout le 19e siècle, mais que un moment se produit un renversement, comme il dit, du regard et de la pensée, fait par les avant-gardes qui vont utiliser ces objets de manière très différente, pas seulement en leur donnant une dignité artistique, mais au fond en s'en servant. Il a ce terme de déclaration de guerre face aux beaux-arts tels qu'ils existent, et l'exemple qu'il donne quand même de Picasso est très intéressant, où effectivement on a cette photo de Picasso dans son atelier avec des objets d'art africain. Or, ce que dit Dagen, c'est qu'au fond, les objets africains qui sont là sont pas les plus intéressants. Ils sont complètement incohérents en termes de géographie, d'ethnographie, d'ethnologie. Mais ils disent quelque chose. Ils disent, moi, je reviens vers le sauvage parce que je veux me détacher des beaux-arts tels qu'ils existent. Donc du coup, c'est pas exactement la même chose que quand il y a une influence, par exemple, du japonisme, parce que le primitif n'est pas, comme il dit, l'exotique. On range pas du tout dans les arts primitifs les estampes japonaises ou l'art d'encore. C'est là où je trouve que Dagen fait vraiment une œuvre intéressante, c'est qu'il montre qu'on a une mode, on a une multitude de textes, de descriptions, de débuts de muséographie, même si elle est faite de manière souvent complètement erratique. Et puis, on a une rupture entamé par des artistes tous nés vers 1880.
Et juste pour appuyer un petit peu cette thèse, qui est celle, cette hypothèse en tout cas, qui est celle de Philippe Dagen sur le rôle de la colonisation et du regard de la colonisation, il cite par exemple un diplomate qui part en Afrique auprès du roi Guézo en 1860, ça se passe donc dans le Dahomey. Ce diplomate s'appelle Pierre-Clément Répin, et Pierre-Clément Répin fait une description d'une case dans laquelle il est et des objets qui sont dedans, en reconnaissant, donc en 1860, la beauté des objets qui là devant lui. Et donc Philippe Dagen dit, bon, c'est peut-être pas une preuve, mais c'est en tout cas un indice de montrer qu'à cette période qui est une période précoloniale, véritablement, qui est plus une période d'exploration qu'une période coloniale, on voit ce diplomate capable de voir la beauté, l'esthétisme des œuvres qu'il a devant lui, alors que par la suite, il va citer tout un tas d'autres textes assez similaires, soit de savants, soit de diplomates, soit de militaires, qui ne voient que des œuvres grossières, asymétriques, donc on voit bien
que,
ou indécente, et évidemment on reviendra à cette question de la décence et du nu par exemple, comment ça a pu influencer évidemment le nu au 19e, 20e siècle dans l'art occidental, mais juste à l'échelle Wallazowski, on voit bien que c'est, si ce n'est qu'une hypothèse, celle de Philippe Dagen sur le rôle de la colonisation, c'est une hypothèse qu'il parvient à vérifier, en tout cas à étayer par les textes de l'époque.
Oui, c'est vrai qu'il justement il s'appuie sur ses textes, ses témoignages, ses récits de voyage, ses analyses aussi dans des articles de presse ou dans des articles officiels qui montrent que il y a plusieurs temporalités finalement qui même se court-circuitent et qui vont pas toujours dans le même sens, et que à un moment donné, il faudra attendre le voyage au Congo d'André Gide en 1926 pour avoir vraiment une pensée qui dénonce le colonialisme, et que il y a plusieurs étapes pour ça, il y a des textes de Stevenson, de Conrad, de Hermann Hesse qui montrent effectivement à l'occasion de voyage aux îles Martinique ou aux îles Marquises, comment tout ça est perçu à la fois sur la violence du civilisé face au sauvage, comme dans ces textes le montrent, mais aussi la manière dont est détruit aussi une culture. Il y a un très très beau texte, par exemple, qui est cité sur l'art du tatouage, qui est dans un texte de Conrad, qui montre très bien comment cet art subtil, fin, raffiné, qui justement a une vision du nu, du corps, de la sensualité, est totalement détruit par à la fois les militaires, les missionnaires, les fonctionnaires, enfin, et que voilà, c'est des destructions d'art et des civilisations complètes. Donc il y a évidemment ce regard très particulier qui ensuite permet effectivement de voir ce que Picasso, Matisse veulent faire eux dans leur propre travail. Donc on voit très bien que c'est une question de regard et de perspective, puisque voilà, les couleurs sexuelles et sauvages chez Picasso et Matisse ont un rôle pour s'opposer au nu académique dont Joseph et Raphaël vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le nu qui vient plutôt de la mythologie antique et qui vient plutôt de l'académisme classique, traditionnel, conventionnel. Donc c'est effectivement une question d'échange, de frottement et de multiplication de perspectives, comme par exemple les peintres, eux, de Diebrücke vont aller totalement dans un autre sens, c'est-à-dire plutôt le retour à la nudité, pour parler du corps, au naturisme, c'est-à-dire finalement avoir une vision plutôt dans les Alpes, en fait, c'est-à-dire retourner à la nature. Pour eux, c'est pas forcément les récits de voyage de Stevenson ou d'autres, c'est plutôt aller vers les montagnes, la nature, essayer de faire une communauté qui vit un petit peu voilà, au soleil, avec des règles sociales et morales totalement détachées de la société moderne.
Alors, pour continuer dans cet aller-retour, Joseph Confavreux, entre l'histoire de l'art et l'histoire, j'allais dire, des sciences humaines, il y a un passage important sur le rôle de Freud dans le regard sur le sauvage, le primitif, et dans le lien qui est fait avec la question de l'art, la question de la folie. Je cite ici Philippe Dagen, parlant de Freud, l'activité artistique est, dans les sociétés contemporaines, l'ultime manifestation de comportements mentaux qui ont été éliminés partout ailleurs par le progrès de la rationalité. Et donc, c'est là un petit peu l'un des nœuds d'analyse de Philippe Dagen, c'est cette volonté pour un certain nombre d'artistes de retrouver, finalement, de s'affranchir de cette rationalité pour retrouver ce qu'on suppose être la créativité fondamentale du sauvage ou du primitif.
Oui, à lire Philippe Dagen, au fond, Freud, quant à la fin des années 20, il définit ce qu'est le malaise dans la civilisation, donne au fond la théorie de ce qu'a été le primitivisme des avant-gardes. C'est-à-dire que, pour Freud, effectivement, la civilisation a détruit nombre de désirs, notamment, et pour Freud, l'art est le seul domaine où la toute-puissance des idées se soit maintenue jusqu'à nos jours. C'est là où, quand même, moi je trouve que le livre de Philippe Dagen fait un coup de force qui résonne avec aujourd'hui, parce que cette année on a fêté le 20e anniversaire du musée du Quai Branly. Alors maintenant on appelle ça les arts premiers, on dit plus les arts primitifs, mais on voit bien que dans une société qui va mal, il y a un intérêt pour les populations d'avant, hein, le monde d'hier, alors avec, c'était le livre de Jared Diamond qui s'intéressait au monde d'hier en montrant bien que voilà, des fois on projette un peu des fantasmes, mais aujourd'hui la focalisation sur l'Amazonie et la politique destructrice de Bolsonaro, si elle résonne de manière mondiale, c'est qu'on sent bien qu'on est aussi dans une impasse civilisationnelle liée aux suites de la société industrielle, et que le malaise dans la civilisation, dont au fond ses peintures, ses sculptures, c'est intéressant quand il dit voilà, au fond l'utilisation du bois n'allait pas du tout de soi, c'est-à-dire la gravure sur bois ou l'utilisation du bois dans certaines œuvres, c'est vraiment une déclaration de guerre aux beaux-arts tels qu'ils existent. Et ben, ça montre que vraiment il y a la volonté de ressusciter des mondes qui ont été engloutis par la société industrielle. Et moi, quand je lis ça, c'est vrai, à un moment je me dis mais en fait c'est assez vertigineux. Alors il annonce un second tome à la fin du livre sur qu'est-ce que ça nous dit de nous.
Oui, sur le nouveau primitivisme, aussi sur l'évolution, sur la deuxième vague du primitivisme, puisque là ça s'arrête à la Première Guerre mondiale, on va dire à l'échelle Walasowski. Mais juste pour aller dans le sens de ce que vient dire Joseph Confavreux, il y a des pages aussi dans ce livre de Philippe Dagen, Primitivisme, une invention moderne, donc publié chez Gallimard. Il y a des pages sur des textes d'Élisée Reclus, de Zola, et sur des paysages dévastés par l'industrie. Et c'est vrai que ça a fait écho, évidemment, aux préoccupations écologistes qui sont celles qu'on a aujourd'hui sur le climat et l'environnement, évidemment. Et donc, il y a encore une fois là une volonté d'aller rechercher chez les primitifs, peut-être, une forme de pureté originelle qu'on peut retrouver dans les mouvements écologistes aujourd'hui, qui vont chercher, par exemple, dans les peuples indiens d'Amérique du Sud, et même ça va plus loin aujourd'hui chez certains anthropologues qui vont chercher des solutions à cette modernité dont on essaye parfois de limiter, on va dire, les conséquences dévastatrices.
Ah oui, c'est vraiment troublant parce que finalement le processus transforme tout, parce qu'au départ le primitivisme c'est effectivement l'autre de l'Europe, mais au sens où tout ce que l'Europe projette condamne, détruit et veut imposer évidemment son empire, son emprise partout. Et après, voilà, quand Conrad dit par exemple dans Au cœur des ténèbres, il n'existe plus qu'une chose aujourd'hui, l'exploitation, ça veut dire qu'effectivement, à partir de ce moment-là et dans ces textes-là, se creuse un autre sillon qui mène aujourd'hui effectivement avec une sorte de recherche du sauvage ou du primitif. Comme Gauguin dit, j'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage et le primitif, c'est-à-dire qu'il y a une recherche comme ça de la nature contre le monde du commerce, contre le mercantilisme, etc., contre le monde académique. Donc, Donc on voit très bien comment évolue finalement toute cette question et l'ampleur qu'elle peut prendre aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. La place qu'elle a aujourd'hui dans la société.
Autre rejeu entre cette époque et la nôtre, vous citiez Raphaël Élisée Reclus, donc grand géographe anarchiste, et Philippe d'Agen montre bien qu'il y a au fond une forme de coïncidence chronologique entre le primitivisme, l'anarchisme et le naturisme, qui correspondent tous trois à une critique radicale des dérives, des écueils de la société industrielle de la fin du 19e siècle. Or, on voit bien que l'anarchisme y rejoue aujourd'hui de manière très forte dans les mouvements. Il y a quand même vraiment des moments assez troublants. C'est-à-dire qu'on parle... Moi, je me suis dit, bon, ok, je vais apprendre plein de choses sur l'histoire de l'art, et j'en suis sorti avec un livre où je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et ça m'a donné envie de me dire, tiens, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans les œuvres, est-ce qu'elles prennent aussi en charge le moment dans lequel on est?
Vous êtes dans l'art de la transition, Joseph Conferreux, parce qu'on va passer à l'art contemporain, mais je voudrais juste signaler, avant de vous laisser conclure, Michel Walazowski, que c'est pas forcé hein, dans le livre de Philippe d'Agen, tout ce qu'on dit. C'est plutôt une lecture qu'on en fait, nous, là. Voilà, ça nous frappe, mais c'est véritablement pas quelque chose qui est recherché par l'auteur ou qui est forcé. C'est quelque chose qui saute aux yeux, qui apparaît au lecteur d'aujourd'hui.
Oui, mais voilà, mais ce qui est intéressant vraiment dans la toute fin, parce que c'est Gauguin qui conclut finalement la dernière grande figure, mais où il y a quand même l'idée d'une fiction polynésienne, quoi qu'il arrive, puisque Noah, c'est quand même écrit par Gauguin comme antithèse, malgré tout, de l'Europe de la société. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est comment, par exemple, ce travail peut rentrer avec aujourd'hui les travaux de Achille Mbembe ou Feldwyn Sarr, qui justement, eux, revendiquent aussi une place véritablement, non pas par le regard européen, justement, mais en tant que tel, comment l'art africain a sa place aussi, évidemment, dans les arts, dans l'histoire de l'art. Et c'est ça qui peut être intéressant aussi à faire dialoguer aujourd'hui.
Philippe d'Agen, Primitivisme au pluriel, une invention moderne, c'est donc aux éditions Gallimard.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourbois.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just a look at her was trouble, it was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart?
Happens to the heart, ce qui arrive au cœur, titre qui ouvre l'album posthume de Leonard Cohen. Thanks for the dance. Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous pencher maintenant sur le livre d'Isabelle Alfonsi pour une esthétique de l'émancipation qui est donc publié aux éditions B42. Isabelle Alfonsi est galeriste, elle a cofondé Marcel Alix avec Cecilia Bekanovic, une galerie d'art contemporain donc qui se trouve à Paris dans le quartier de Belleville. Elle mène aussi un travail théorique qui a donné lieu à un cycle de conférences intitulé « Le genre n'a rien de théorique », quelques tentatives de parler d'art en revêtant les lunettes du genre, un cycle de conférences qui a été tenu au Centre d'art contemporain d'Ivry, le CREDAC. Tout l'enjeu de cet essai est de rassembler cette expérience de pensée qui l'a amené à définir ce qu'elle appelle les lignées d'un art queer contemporain. queer, le terme est lâché. L'art queer avait d'ailleurs fait l'objet d'un autre ouvrage aux éditions B42 par Renate Lorenz, emprunté au vocabulaire militant des mouvements de défense des droits homosexuels et des mouvements portant une critique radicale féministe du capitalisme au XXe siècle. Isabelle Alfonsi rappelle que ce mot, qui signifie étrange, bizarre ou tordu, est d'abord une insulte récupérée comme une fierté par celles et ceux qui en étaient affublés. Il s'agit donc de raconter les histoires qui se tissent entre les artistes qu'elle inscrit dans ses lignées queer et les mouvements sociaux, que ce soit pour la reconnaissance des droits des homosexuels, le féminisme ou au plus fort de l'épidémie du sida au tournant des années 80-90. Isabelle Alfonsi considère en effet que le mouvement qui a amené à désolidariser l'œuvre des affects qui l'entourent, à isoler l'œuvre du monde dans le white cube, le cube blanc et impersonnel de la galerie d'art pensé comme un hors-sol, est en réalité un mouvement qui a perpétué une esthétique qu'elle appelle de la domination. S'intéresser au queer à travers l'œuvre de Claude Cahun, Michel Journiac, Linda Benglis ou Félix González-Torres, c'est aussi poser la question d'une politique de l'identité, une façon, Joseph Confavreux, d'affirmer les fondements politiques de l'art et d'en faire aussi un instrument de libération et donc d'émancipation, puisque c'est le titre de cet ouvrage.
Oui, non, mais c'est vrai que dans un contexte où l'art contemporain a été largement digéré par l'industrie du luxe et où la plupart des artistes sont devenus des produits défiscalisés et spéculatifs, je trouve important de reprendre le chantier des liens entre art et émancipation, entre esthétique et politique, et c'est ce à quoi Isabelle Alfonsi s'emploie dans son livre Pour une esthétique de l'émancipation, dont il faut quand même dire tout de suite que il donnera de l'urticaire à toute la galaxie néo-réactionnaire. C'est écrit en écriture inclusive et ça veut défendre un art queer qui complexifie le grand récit, je cite, de l'histoire blanche, hétéronormative, validiste et bourgeoise. C'est très LGBTQIA+++++. Là, on n'est pas sur un plateau complètement queer, hein, je signale tout de suite, avec trois hommes blancs dans ce studio. Mais c'est pas une raison pour ne pas s'intéresser justement à quelque chose qui, quand même, au début, peut sembler un peu trop situé dans un art très militant, mais qui en fait devient très convaincant dans sa manière de relire l'histoire de l'art à l'aune non seulement d'un regard qui ne soit pas hétéronormatif, qui soit féministe, qui soit militant, queer, homosexuel, mais en disant qu'au fond, on est resté dans une histoire de l'artiste singulier, du génie, et que ce génie était souvent masculin, blanc et hétérosexuel en plus, mais que en fait, il faut, pour définir un art queer qui soit un art non binaire. Alors non binaire, c'est seulement non seulement homme-femme, hétérosexuel, homosexuel, blanc-noir, tout ça, c'est des binarités. Mais elle va plus loin. Elle dit qu'au fond, un art non binaire, ce serait un art qui ne différencie pas tellement la sculpture du socle, l'auteur du spectateur, la peinture du volume. Et donc c'est vraiment, il y a un enjeu assez puissant politiquement, esthétiquement, pour lequel il faut accepter aussi la création collective.
Oui, il s'agit de déconstruire pour Isabelle Alfonsi les mythes du discours sur l'art contemporain. Elle en liste au moins trois. L'artiste isolé, ça vous l'avez dit, donc la figure nécessairement masculine selon elle du génie artistique, enfin selon elle, il suffit de regarder un petit peu la production sur l'histoire de l'art pour en être convaincu, que c'est le regard dominant. La division de l'art en disciplines constitué en bloc solide, donc voilà, il y a un mélange entre le volume et la peinture, entre la performance, la vidéo, enfin voilà, les artistes qu'elle étudie sont des artistes qui sont transdisciplinaires, pour le dire de cette façon. Et enfin, la différence fondamentale entre l'art et l'activisme, c'est-à-dire qu'entre ce fameux white cube que je citais, qui est un peu l'image de la galerie complètement hors sol, qui coupe l'œuvre du reste du monde, parce que il faudrait regarder l'œuvre en elle-même, en tant que telle. Et donc ce sont aussi, il faut le dire dans cet ouvrage, quand ça parle d'esthétique de l'émancipation, c'est qu'il est aussi question de forme, c'est-à-dire pas forcément de beau ou de laid, comme on entend parfois souvent la question de l'esthétique, mais véritablement de forme. Alisha Walazowski.
Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que les enjeux esthétiques sont réinscrits dans ce qu'elle appelle justement l'environnement historico-affectif pour placer les artistes dans le contexte politique, théorique de leur lignée, puisque c'est son projet, donc de réouvrir finalement des pans de l'histoire collective, de l'histoire politique, de l'histoire sociale, sociale, ou pour montrer justement le rôle émancipateur des artistes, des figures qu'elle développe. Comme par exemple, elle commence la première partie du livre sur le travail de Claude Cahun et Marcel Mort, qui sont des militantes politiques pour la cause homosexuelle. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des artistes des années 20-40, avec des photographies d'art qui ont été retrouvées dans des archives et qui révèlent justement une certaine plasticité très moderne, très actuelle, qui montre comment justement, à la fois Cahun est une des deux femmes qui a participé à l'exposition des objets surréalistes en 1936, mais que dans un contexte donc où l'invisibilité lesbienne et féministe est en train de se transformer, où il y a une revendication justement pour ce qu'elle appelle le troisième sexe, c'est-à-dire s'opposer à l'image de la femme objet, des caractéristiques physiques et psychologiques de la femme à cette époque. Et là, c'est très intéressant, elle s'appuie, donc l'auteur, hein, Isabelle Alfonsi, sur des revues qui sont des revues de l'époque comme Inversion et aussi L'Amitié, qui dénoncent à la fois la criminalisation de l'homosexualité et qui défendent l'amitié comme mode de vie, en annonçant ce qu'elle appelle justement des formules qui viendront bien plus tard comme « prolétaire de tous les pays, caressez-vous », hein, une formule des années 70 du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et donc, par exemple, un photomontage de 1929-1930, juste pour vous donner un exemple du travail de Claude Cahun, c'est une image d'un corps démembré, reconstruit, corps-machine avec du collage, qui dénaturalise évidemment l'identité féminine telle qu'elle est vue. Donc c'est un travail à la fois iconoclaste, libertaire, qui désacralise le corps féminin, qui pose des questions sur le langage, sur le corps, sur les affects, et puis qui annonce déjà ce qu'on appellera par la suite évidemment la performance ou l'art drag, l'art camp, sur ce jeu théâtral d'assemblage, de travestissement qui viendra un petit peu plus tard. Donc c'est très intéressant comme type de travail artistique.
Alors ça m'amène à parler un petit peu de la composition du livre d'Isabelle Alfonsi rapidement, avant de revenir peut-être à des considérations sur ce qu'elle appelle l'affective turn, le concept de lignée, la question de l'universel. C'est un livre qui est préfacé par la philosophe Geneviève Fraisse, qui fait beaucoup référence à Donna Haraway, à une autre philosophe, voilà, qui sont des philosophes qui ont pensé la multitude des mondes, la possibilité de sortir d'une vision, on va dire, univoque de l'universel. Mais parlons un petit peu, si vous le voulez bien, de l'organisation du livre Joseph Confavreux, qui est organisé en quatre moments, qui sont des moments d'histoire de l'art. Donc un premier autour de l'œuvre de Claude Cahun et Marcel Mort. Au passage, Claude Cahun, qui est donc cet artiste qui est connu aussi pour ses photographies, qui trouble le genre, on va dire, qui a fait l'objet d'une exposition en 2011 au Jeu de Paume, qui avait été vu comme une artiste unique. Et donc là, on découvre Joseph Confavreux, enfin en tout cas moi qui la connaissais pas aussi bien que ça, j'imagine peut-être que d'autres gens étaient au courant, que en fait, il faut la voir d'abord comme dans sa relation, dans sa coopération avec celle qui était sa compagne, Marcel Mort, qui est aussi une artiste.
Oui, c'est là où moi je trouve que le livre d'Isabelle Alfonsi, vous parliez de la structure, elle est assez forte, parce que c'est vrai, quand on lit l'introduction, on se dit bon, c'est un manifeste qui est juste, c'est-à-dire que l'histoire de l'art, elle est trop blanche, elle est trop masculine, elle est trop centrée sur les génies singuliers, et donc il faut décentrer le regard, adopter des perspectives minoritaires. On se dit c'est juste, mais voilà, ça reste sur le côté manifeste. Et que, avec, en prenant, en fait, pas beaucoup, hein, 4-5 exemples, 5 moments de l'histoire de l'art, 5 figures, elle va proposer vraiment une lecture à la fois des formes et de la politique, de l'esthétique et de la politique, qui est très convaincante. Et sur Claude Cahun, c'est particulièrement vrai, puisque, comme elle dit, même quand on l'a redécouverte alors qu'elle avait été gommée au fond de l'histoire de l'art, on l'a redécouverte, mais en refusant de considérer que c'était un duo qui crée ensemble, et que, en fait, on l'a inscrite, comme elle dit, dans la narration toute faite de l'artiste maudit. Et l'intérêt de la redécouverte retombe sur ceux qui l'ont redécouverte et qui l'ont rehissée au rang des génies singuliers. Et donc, en gros, elle dit, il s'agit pas simplement de remettre une femme dans la lignée des génies singuliers, mais au contraire, de montrer comment Marcel Mort et Claude Cahun ont été précurseurs, je sais pas comment on peut dire, de cet art queer, dont il est important, comme elle dit, de retrouver les amis du passé. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui, où on a besoin pour elle d'un art queer, lui redonner force, il faut reconstituer des étapes, d'autant plus que, pour elle, l'épidémie de sida des années 90 a interrompu cette lignée. Et le deuxième exemple qu'elle prend, qui me semble vraiment passionnant, c'est le moment du minimalisme, Donc américain, là, oui. Minimalisme américain, et de son emblème dont vous avez parlé, qui est le White Cube, donc cette galerie, où au fond, il y aurait qu'un seul sens qui serait mobilisé, c'est-à-dire la vue. Tout est affiché pour être collectionné, pour être mis sur un mur dans un appartement. Et là, elle prend quelques exemples très convaincants, hein, à la fois de critiques d'art, d'artistes, qui veulent faire rendre ça beaucoup plus sensuel, beaucoup plus sexuel, souvent aussi, alors que le minimalisme est quelque chose de très masculin, identifié à des artistes comme Carl André,
Sol Lewitt ou Dan Flavin, ouais.
Ou Dan Flavin, elle met en avant les figures notamment de Linda Benglis, de Yvonne Rainer, aussi d'une commissaire d'art et d'artiste, Lucy Lippard, qui met le terme d'abstraction excentrique comme une forme de perversion et en fait de détournement du minimalisme, en disant au fond c'était un mouvement, un outil plus qu'un mouvement, des outils qui ont été aussi importants que le minimalisme et qui ont été complètement évacués, enfin pas complètement mais en grande partie évacués de l'histoire de l'art.
Mais pour comprendre cette démarche d'Isabelle Alfonsi, en effet, et cette idée de concept de lignée, je citerai ce passage où elle dit « S'engager en faveur d'une esthétique de l'émancipation revient à relier des points dans l'histoire de l'art par de nouvelles relations qui leur rendent leur sens politique qu'ils ont perdu. » Et par exemple, si on parle de ce second chapitre « Minimalisme, abstraction excentrique et subversion queer », ça commence par une analyse d'un artiste, Robert Morris, et par aussi une déconstruction de la façon dont l'œuvre de cet artiste, qui est une des œuvres emblématiques du minimalisme américain, dans le White Cube, avec deux œuvres notamment que sont iBox et L-Beams. L-Beams, ce sont des sculptures, des volumes en forme de L qui sont placés dans la galerie. iBox, c'est une porte qui s'ouvre en forme de I qui s'ouvre sur une photo de l'artiste nu. Et ce que dit Isabelle Alfonsi, c'est qu'on ne comprend rien à ce travail si on ne lit pas ces deux œuvres entre elles, et surtout si on ne lit pas le travail de Maurice avec celui, par exemple, de Simone Forti et Yvonne Rainer, qui étaient des compagnes de travail et des compagnes aussi à la vie pour l'une d'entre de Robert Morris. Et donc on voit bien là cette démarche qui est celle d'Isabelle Alfonsi de relier les points entre eux, Ali Chavalazowski.
Oui, tout à fait, Raphaël, vous avez raison de souligner cette démarche archéologique un peu à la manière de Michel Foucault évidemment, ou des révoltes logiques dont Geneviève Fraisse a participé, c'est-à-dire essayer justement de faire surgir, de mettre en avant justement des relations, des archipels, des réseaux, des connexions qui n'avaient pas été faites jusqu'à présent. D'une part parce que les artistes ne sont pas isolés dans leur travail, mais ils appartiennent à la fois à une génération, un contexte, un mouvement politique dont ils sont évidemment à la fois les participants et les constructeurs, mais il y a aussi le rôle à la fois des critiques d'art, à la fois des galeristes, à la fois des compagnons d'armes, de combat. Donc ça déplace le regard, ça déplace le curseur. Au sein même de mouvements, il y a des tensions justement, il y a des oppositions, parce que cette expérience du minimalisme, hein, qui est définie justement par la critique d'art, vous parliez de ce mouvement de Rosalind Krauss qui dit, c'est l'impossibilité d'une conscience unifiée des œuvres en dehors de l'expérience que les spectatrices ou les spectateurs peuvent en faire. Donc l'artiste n'est plus le dépositeur de la vérité sur son œuvre. Donc ça, effectivement, on comprend bien que la perception réelle a changé, qu'il faut s'émanciper d'un récit dominant qui ne voit qu'une seule lecture possible. Vous avez parlé tous les deux justement du White Cube. Mais justement, le problème, c'est que le minimalisme est à la fois une culture avant-gardiste et artistique qui change les codes, mais en même temps qui est, elle dit, assez vite aussi récupérée et fermée sur un fonctionnement. Donc elle dit qu'on passe ensuite à un mouvement qui est post-minimaliste, qui creuse justement et qui veut s'échapper un peu de la récupération presque, on pourrait dire, masculine de ce mouvement-là, ou en tout cas d'une seule façon de le voir. D'où après, c'est montrer que aussi l'art se transforme, parce que elle parle à la fois de films, de vidéos, d'installations, de performances. On voit très bien comment ça réinvente à chaque fois le dispositif. Je voudrais juste donner l'exemple, par exemple, vous avez parlé de Linda Benglis, la sculptrice. Il y a une œuvre quand même très intéressante qui s'appelle Comme, en 1973-74, qui signifie à la fois venir et jouir, et qui est une œuvre en bronze qui représente une production corporelle informe, une matière un peu dégoulinante, mais avec une patine brillante, avec une forme de distance humoristique justement qui donne un peu cet objet, on ne sait plus trop quel rôle il a finalement. Et Benglis justement montre qu'il faut jouer avec les humeurs, avec les affects, en transformant finalement tout ce que le corps et l'esprit peuvent connoter, quoi. Donc ça crée quand même justement un espace d'interrogation très intéressant pour queeriser le minimalisme. Il faut queeriser le minimalisme, c'est un peu la lecture qu'elle propose.
Oui, le queer, c'est aussi l'émergence du corps érotisé dans l'art. C'est ce que montre Isabelle Alfonsi dans ce livre Pour une esthétique de l'émancipation. Mais venons-en tout de même aussi à cette question de l'universel, puisque je l'annonçais tout à l'heure, c'est Geneviève Fraisse, donc la philosophe philosophe qui préface cet ouvrage. Et donc, il y a cette notion de passage à l'universel qu'elle a théorisé, qui irrigue, j'allais dire, tout l'ouvrage, puisque la question que pose aussi Isabelle Alfonsi, à travers des œuvres comme celle d'Yvonne Rainer, par exemple, qui est une chorégraphe et vidéaste, qui fait partie de ce mouvement un petit peu de déconstruction de la danse, d'une danse aussi minimaliste, qui est un travail qui est proche de celui d'une autre philosophe, je ne voudrais pas trop assommer de référence, mais c'est vrai que c'est à l'image du livre d'Anna Haraway, qui est de contester l'idée que montrer le point de vue des assujettis, des dominés, donc ce seraient les femmes en l'occurrence, mais ça pourrait être aussi ce qu'on appelle, pour redonner aussi un peu plus d'urticaire au néo-réactionnaire Joseph Confavreux, les racisés, donner ce point de vue des assujettis serait trop relatif, trop spécifique, et donc empêcherait d'accéder à l'universel. Et là, Isabelle Alfonsi, elle affirme et elle veut montrer que non, à travers l'œuvre d'artistes comme Yvonne Rainer, il y a bien un accès à l'universel.
Oui, c'est là où c'est habile d'avoir fait faire la préface à Geneviève Fraisse, parce que ce serait facilement... Enfin, on voit bien comment toute une partie du champ politique et esthétique pourrait dire, bon, voilà, c'est vraiment l'art communautaire, l'art de l'entre-soi, de petits groupes. Et elle dit, non, simplement, ce qui est aujourd'hui théorisé par beaucoup, y compris par des gens comme... enfin, pas exactement de la même manière, mais tout à l'heure, Alyosha parlait de Achille Mbembe ou Selwyn-Sar. En gros, l'universel, vraiment universel, c'est l'universel qui prend en charge justement la multiplicité des regards. Et par exemple, on parlait du travail de Linda Benglis, au fond, une image de la femme qui soit pas celle attendue par le regard masculin qui est et le regard dominant dans l'art, mais qui au contraire affirme à la fois une puissance sexuelle. Il y a tout un truc sur le double Godemiché, à la fois comme œuvre et dans une photo, où la femme est à la fois pénétrée et pénétrante, comme l'explique Isabelle Alfonsi. C'est vrai qu'on a peu l'occasion de parler du double Godemiché sur France Culture, donc j'en profite.
À une heure de grande écoute.
Et
je vous remercie, Joseph Favreux.
Et non, mais du coup, ça lui permet vraiment, je trouve, de manière assez convaincante, de montrer juste que l'universel s'enrichit de passer par les identités singulières auxquelles elles ne se réduisent. Après, on voit quand même qu'on a changé d'époque, parce qu'il y a, on peut aborder donc maintenant Michel Journiac, promoteur d'un art relationnel avant l'émergence de l'esthétique du même nom dont on va parler, qui demande la participation active du public, et qui était quand même connu pour des performances assez trash, il faut bien le dire. Et alors, moi, ça, je connaissais pas la performance qu'elle décrit avec Sylvia Bourdon, qui était une fondatrice d'une galerie d'art érotique, féministe et actrice de films pornographiques, qui est aujourd'hui une des principales contributrices du site nationaliste ultra-réactionnaire Riposte Laïque, ce qui montre que quand même, on a changé d'époque. Et que effectivement, il y a peut-être eu des ruptures dans la lignée qu'il est important de resituer.
Oui, Michel Journiac, puisque Isabelle Alfonsi trace une ligne, une relation à travers l'Atlantique entre les minimalistes dont on vient de parler et Michel Journiac, qui est donc cet artiste français, membre actif du FAR, du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui véritablement a cette pratique que vous venez de dire et qui pose cette question. Et peut-être qu'il faut terminer là-dessus, même si le livre continue encore, mais nous on n'aura plus beaucoup de temps, Alyosha Wadlazowski, sur cette question de l'esthétique relationnelle, de l'activité artistique à la fois militante, sexuelle et intellectuelle, et qui repense la relation de l'œuvre, de l'artiste et du spectateur, du regardeur, comme vous voulez.
Oui, les enjeux esthétiques ont été évidemment bien mis en avant à travers ce travail. Moi, je pense par exemple à l'œuvre de Michel Journiac qui s'appelle « Oh putain inconnu », justement de 1973, où on voit un squelette humain habillé de blanc, mais qui est posé sur les trois couleurs du drapeau tricolore, donc comme si à la place du soldat inconnu, on mettait effectivement une sorte de sexualisation du corps mort. On voit très bien ici que ça prend toute sa dimension, justement, ce regard à la fois sur la société, sur la sexualité, sur la mort et la maladie, sur un certain nombre de symboles justement d'une culture et d'une nation. Donc c'est vrai que dans ce travail-là, qui va jusqu'à la dimension aussi plus contemporaine du collectif et du geste aussi de l'anonymat et de la volonté que l'artiste n'est pas une figure mais plus plurielle, plus multiple et que qu'il s'inscrit, c'est le collectif Boy Girl with Arms Akimbo qui est effectivement une façon justement de qualifier l'art sous forme à la fois parfois, on le sait par exemple d'images, de posters, de graffitis, d'invasion de l'espace finalement totalement réinvesti par cette création d'intervention. Donc voilà, les enjeux sont bien montrés.
Oui, juste un dernier mot, parce que on n'a pas prononcé le terme, alors il faut le faire quand même avant de terminer, sur l'art queer, qui est la question de l'identité, c'est-à-dire le refus d'une identité fixe et unique, et essayer de faire émerger une identité sans essence. C'est-à-dire que c'est pas le rejet de l'identité, Joseph Confavreux, je veux juste qu'on termine là-dessus, parce que c'est un point important du livre d'Alfonsi, pour bien comprendre de quoi on parle. Il s'agit pas de rejeter l'identité, mais plutôt de faire émerger la possibilité d'une identité sans essence.
Sans essence. En fait, pour le résumer, on pourrait dire que c'est une perspective minoritaire et non identitaire. C'est-à-dire que souvent, c'est renvoyé à l'idée que, voilà, c'est des identités comme ça, figées, et de gens qui ne peuvent pas sortir de leur communauté, alors qu'elle dit non, c'est à partir du minoritaire qu'on peut vraiment faire un universel qui soit universel, c'est-à-dire qu'ils prennent toutes les formes d'art et d'existence.
Mais le refus de l'essentialisme était le point de départ du féminisme.
Pour une esthétique de l'émancipation, Isabelle Alfonsi, c'est donc aux éditions B42.
L'instant critique.
L'instant critique, dernière séquence de l'émission, les conseils culturels de nos critiques. Joseph Confavreux, vous êtes venu avec
un livre, mais qui est aussi un site web, Poétique du slogan révolutionnaire. C'est signé par Zoé Carl, c'est aux éditions Presse Sorbonne Nouvelle. C'est un livre qui est composé à partir des slogans en fait révolutionnaires de l'Égypte. Mais comme elle dit, des slogans, ça excède la forme d'un livre. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le visuel, voire le son. Et donc, elle en a fait aussi un site web, une sorte de base de données, et c'est vraiment un livre assez saisissant. Alors bon, moi c'est vrai que j'étais en Égypte pendant la révolution de 2011, donc peut-être qu'il m'a parlé comme ça, mais elle se demande, voilà, pourquoi est-ce qu'on écrit comme ça sur les murs, comment est-ce qu'un slogan devient révolutionnaire, c'est-à-dire qu'en fait elle l'entend dans trois manières différentes, c'est-à-dire que ça peut être le slogan chanté par les révolutionnaires, ça peut être un slogan qui est tellement inventif qu'il révolutionne sa forme, et qu'au fond il faut étudier, parce que est-ce que, Raphaël, vous connaissez l'origine du mot slogan?
Non, pas du tout, Joseph Confavreux. Vous posez une colle, comme on dit.
Je vous pose une colle. Ça vient du gaélique, qui veut dire sluag-garm. Enfin, ça, qui vient de sluag-garm, qui veut dire troupe et appel. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était, en fait, un appel aux troupes. Et, ce terme est ensuite passé en anglais, puis est devenu, au fond, un slogan d'abord commercial. Et là, ce qu'elle montre bien, Zoé Carl, c'est que ça redevient l'origine, c'est-à-dire la mobilisation des troupes à travers, au fond, une invention, alors qu'elle soit esthétique ou politique, et qui crée une forme, comme elle dit, de performativité, puisque voilà, ça fera le lien un peu avec l'esthétique de l'émancipation. Voilà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une approche assez littéraire d'objets qui sont assez fluctuants, et qu'elle nous montre à quel point ça peut être important, et on l'a vu, je trouve, aussi récemment en France, dans les formes de la mobilisation.
Oui, puisqu'il y avait un site aussi qui reprenait la poétique des slogans des Gilets jaunes, l'adresse du site m'échappe, mais là, en tout cas, on peut aller lire Zoé Carl, donc Poétique du slogan révolutionnaire,
www.sloganrevolutionnaireaupluriel.org, une base de données qui vous fait entrer dans, vu ce qui est devenu le régime du maréchal Sissi, qui rappelle qu'il y a quand même la force de la société égyptienne qui est sous-jacente.
Alors vous vous souvenez, il y a 11 ans, fin novembre 2018, le monde de la science et de la culture fêtait les 100 ans de son vivant du père de l'anthropologie structurale et pionnier de l'écologie moderne, Claude Lévi-Strauss, qui s'est éteint l'année suivante en octobre 2009. Mais aujourd'hui, le monde des arts, pour rester dans ce thème, célèbre un autre centenaire. C'est le peintre français vivant le plus connu au monde, le maître de l'outre noir, Pierre Soulages, né en décembre 1919 et qui travaille la couleur sombre au service de la lumière depuis 8 décennies maintenant. En témoigne juste par exemple le tableau intitulé « Peinture » tout simplement de juin 1979. Qui est composé d'un grand diptyque, un jeu de matière entre le noir profond et la lumière qui vient se réfléchir dans les sillons et les aspérités de la surface travaillée par le peintre. Alors pour fêter les 100 ans de Soulages, c'est mon coup de cœur, le musée du Louvre lui consacre une expo dans le Salon Carré jusqu'en mars 2020 et de nombreux livres paraissent autour de son travail. J'en ai simplement choisi 4 très rapidement. Pierre Soulages, 3 lumières du poète Jacques Laurent sur la présence et l'absence dans l'œuvre de Soulages aux éditions Verdier. Parole d'artiste, c'est un choix de citation et de courte réflexion de Soulages lui-même aux éditions Fage. L'interview était dans la peinture, c'est un entretien d'Anne-Camille Charlier avec Soulages aux éditions Hermann. Et je termine juste par un dialogue avec Alain Badiou sur l'art et sur Pierre Soulages qui met en miroir l'œuvre de Soulages avec l'histoire de la peinture de Manet à Klein et qui vient de paraître aux éditions Cercle d'Art.
Et vous auriez pu citer également l'échelle Valazowski, l'excellent entretien qu'Arnaud Laporte a mené avec Pierre Soulages et qui a été diffusé cette semaine sur France Culture. Vous pouvez évidemment réécouter et podcaster. Merci beaucoup.
Je voulais faire cette transition.
Vous avez bien fait. Merci beaucoup à tous les deux. Avis critique, c'est donc terminé. Attaché d'émission, Catherine Denet à la réalisation. réalisation. Aujourd'hui, c'était Vanessa Nadjar et à la prise de son, Olivier Dupré. Puisque je parlais du site de France Culture, vous pouvez aussi aller sur la page d'avis critique, donc sur franceculture.fr, pour réécouter, télécharger, vous abonner au podcast de cette émission. Dans quelques instants, Jukebox.